Nous inclinons de la prière. Oh oui, Dieu notre Père, nous venons, à travers ce texte de l'apôtre Paul, de réfléchir à l'humiliation de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Il a pris notre place, il s'est fait homme comme nous, il a connu notre condition humaine, la faim, la soif, la fatigue. Et c'est donc lorsque nous le prions, lorsque par son intercession nous pouvons nous adresser à toi, eh bien c'est vraiment à quelqu'un qui a connu notre condition, qui en échappe de notre condition à sa sagesse et à sa toute-puissance. Et nous te remercions vraiment pour ce Sauveur, pour ce plan de salut. Nous étions nous-mêmes incapables de venir jusqu'à toi, de trouver un chemin jusqu'à toi. Et c'est toi qui es venu à nous, en Jésus-Christ. Merci de ce que ce dernier a accepté ce rôle, accepté de s'humilier, accepté de devenir homme. Merci de ce qu'il nous a racheté, de ce que sa justice nous couvre maintenant, et merci de cet accès que nous avons auprès de toi par lui. Permets que nous puissions chaque jour nous en réjouir davantage, chaque jour mesurer davantage la beauté, la grandeur de ce plan de salut, que nous puissions chaque jour davantage aussi voir l'obéissance de Jésus-Christ, ce dont il a dû se dépouiller, Père Céleste, pour devenir homme, et que cela imprègne alors nos vies, à nous aussi, qui sommes toujours si prompts à être égoïstes, si tournés vers nous-mêmes. Eh bien, que mettant nos pas dans les pas de notre Seigneur Jésus-Christ, nous puissions nous aussi regarder en bas, regarder à ceux qui nous entourent, aux malades, aux faibles, et aide-nous vraiment alors à être inspirés et guidés par le modèle de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous te demandons vraiment de bénir ce culte. Nous te demandons que nous puissions regarder à Jésus-Christ, à faire toi, que nous puissions, comme ce texte nous y invite, que nous puissions proclamer que Jésus-Christ est bien le Fils de Dieu, le Sauveur, oui, membre de la Trinité, trois qui sont Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et c'est par lui que nous adressons cette prière et que nous voulons te louer. Dans le bon nom du Seigneur Jésus. Amen.
Amen. J'aimerais lire maintenant quelques versets tirés du livre de l'Apocalypse. Versets qui nous parlent de la louange rendue à notre Sauveur et Seigneur, dont nous venons de lire un texte glorieux dans l'épître de Paul aux Philippiens, donc dans ce chapitre 2, qui faisait référence à son statut éternel de Fils de Dieu lui-même, à son incarnation, à son sacrifice, à sa résurrection et à sa glorification assis à la droite du Père. J'aimerais donc lire ce passage qui nous parle justement de cette gloire qui est maintenant la sienne, dans le ciel, à la droite du Père, dans la gloire. « Je regardais, écrit l'apôtre Jean, et j'entendis la voix de beaucoup d'anges autour du trône et des êtres vivants et des vieillards. Leur nombre était des myriades de myriades, des milliers de milliers. Ils disaient d'une voix forte, « L'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Et toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre, sous la terre, sur la mer et tout ce qui s'y trouve, je les entendis qui disaient, à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, soit la louange, l'honneur, la gloire et la force au siècle des siècles. » Je vous invite maintenant à ouvrir vos Bibles dans le livre des psaumes et nous allons lire le texte de la prédication de ce matin au psaume 23, psaume que nous connaissons certainement tous, psaume de David. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles, il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton, voilà mon réconfort. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et je reviendrai dans la maison de l'Éternel pour la durée de mes jours. Voici donc le texte de ce psaume. le texte de la parole de Dieu, que notre Dieu bénisse sa parole qui sera annoncée. Bénisse aussi sa parole annoncée aux enfants. Chers amis, vous savez que nous avons commencé à découvrir David ces derniers dimanches. Et nous avons vu au chapitre 16 du premier livre de Samuel comment Dieu est allé chercher David au fond de ses pâturages afin de l'oindre comme roi d'Israël. Ça, c'était dans la première partie du chapitre 16, donc de ce premier livre de Samuel. Et dans la deuxième partie, les derniers versets, nous avons vu dimanche dernier, nous avons découvert divers talents de David. Nous avons découvert, c'est vrai, ses talents de berger, mais surtout ses talents de poète. C'était un homme qui était un musicien, c'était un homme qui parlait bien, qui parlait de Dieu. C'était aussi un soldat, un homme viril, un homme courageux. Et surtout les talents de poète, les talents de musicien de David furent utiles dans la cour du roi Saül pour apaiser ce roi qui avait été abandonné, délaissé par Dieu à cause de sa rébellion. Ayant donc considéré ensemble dans ce chapitre 16 de 1 Samuel le rôle de pâtre de David, c'est-à-dire de berger, mais aussi de chantre, eh bien il m'a semblé bon ce matin de couper dans cette suite que nous venons de commencer, d'emblée, et de considérer un des psaumes, un des cantiques, certainement écrit par David, et qui nous permettra de voir, de découvrir l'intimité de David avec Dieu, qui nous permettra de découvrir non seulement cette intimité, mais aussi cette confiance de David avec son Dieu. Et nous serons certainement encouragés au travers de ce magnifique psaume de découvrir, plutôt d'écouter les paroles de ce roi. Est-ce qu'il a composé ce psaume alors qu'il était avec ses brebis dans les pâturages? Est-ce qu'il l'a composé plus tard en se souvenant des multiples journées et nuits passées avec ses brebis dans l'intimité de Dieu? Quoi qu'il en soit, nous serons donc certainement encouragés, édifiés de ce psaume et surtout de ce qu'il nous parle, de la bienveillance, de la fidélité de l'Éternel à l'égard de ses brebis. Fidélité de l'Éternel à l'égard de ses brebis, pour reprendre donc les images de ce psaume, au pâturage, sur les sentiers et dans la bergerie. Le titre de ma prédication est relativement simple et très simple, un bon berger. Et les trois points, je viens de les énumérer, le premier dans les pâturages, le deuxième sur le sentier et le troisième à la bergerie. Donc la bienveillance, la bonté de ce berger dans les pâturages, sur le sentier et à la bergerie. Et nous commençons donc par le premier point, la bienveillance de Dieu dans les pâturages, enfin du berger dans les pâturages. Nous allons voir pour nous ce qu'il en est. Ce sont les versets 2 et le début du verset 3. « Il me fait reposer dans de verts pâturages, écrit David. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. » Il faut savoir que le premier soin d'un berger palestinien à l'époque de David est de chercher et de préparer un pâturage pour son troupeau. Et pour ce faire, ce berger doit bouger, eh bien il faut de temps en temps que le berger quitte ses brebis, les laisse à la bergerie ou peut-être dans un pâturage dans lequel elles se trouvent déjà, prenne son chien ou peut-être laisse le troupeau à la garde de son chien et se mette en recherche donc d'une nouvelle terre. Il se passe ceci, c'est que dans ces pâturages, enfin dans ces vallées ou dans ces plateaux de Palestine, à l'époque de David, eh bien de ces vallées, donc de ces plateaux, sont impropres à nourrir le troupeau. Pour quelle raison? Tout d'abord en raison de l'aridité de ces terres. Et en particulier, si pour vous qui connaissez peut-être Israël, si vous êtes allé en voyage là-bas, dès que l'on s'approche de la mer Morte, on est dans des terres très très arides où il n'y a pas beaucoup d'herbe. C'est dans ces terres-là que David s'est réfugié, en particulier dans les anfractuosités de ces roches qui sont au bord de cette mer morte. C'est là qu'il s'est réfugié lorsque Saül le poursuivait. Donc très peu d'herbe à cet endroit. Soit donc un manque d'herbe, soit tout simplement parce que des plantes vénéneuses sont mélangées à l'herbe et pourraient être dangereuses pour les brebis. Et puis, évidemment, que David, lorsqu'il était berger, n'était pas le seul berger en Israël. Et l'autre problème, c'est qu'il faut arriver dans des pâturages qui ne sont pas déjà occupés par d'autres troupeaux et d'autres bergers qui apprécieraient peu, qui goûteraient peu, vous l'imaginez, la venue d'un nouveau troupeau et d'un nouveau berger. Ensuite, lorsqu'un terrain a enfin été trouvé, il est libre, il y a un pâturage, eh bien le berger n'a pas fini son travail. Et il faut qu'il fasse le tour de ce pâturage et qu'il le protège, qu'il le sécurise pour ses brebis. Et qu'il découvre en particulier s'il y a des trous de vipères, et il va faire le nécessaire pour boucher ou pour que ces trous de vipères ne permettent pas à la vipère de sortir et de mordre des brebis au museau. Et à l'époque, il prenait, semble-t-il, de la graisse de porc qu'il mettait dans ces trous, donc pour empêcher peut-être les vipères de sortir et de mordre les brebis. Il continue de découvrir le terrain et il va essayer de voir ensuite s'il n'y a pas des tanières peut-être ou des anfractuosités dans lesquelles se cacheraient peut-être des chacals, des hyènes ou que sais-je encore, des animaux sauvages. Et là, le berger bouche ses trous, ses orifices avec de grosses pierres, à moins, bien entendu, que, un peu comme David, et nous le découvrirons au chapitre 17, il s'est battu contre l'ours et contre le lion, à moins que, armé de son couteau ou armé de sa fronde, eh bien, il débarrasse le pays de ces bêtes malfaisantes qui pourraient faire courir un risque à son troupeau. Encore un besoin du troupeau, c'est qu'il faut qu'il y ait de l'eau. Et il faut en particulier qu'il y ait une eau courante, un ruisseau qui coule doucement. Pourquoi ? Parce qu'il y a un double danger. S'il n'y a pas de ruisseau, pas d'eau, pas de boisson, ces brebis vont dépérir rapidement. Ensuite, s'il y a une eau mais qu'elle est stagnante, bien elle risque d'être malsaine, empoisonnée pour le troupeau. Si le courant est trop rapide, il risque d'emporter dans son cours un agneau peut-être, qui se serait présomptueusement avancé près de ce ruisseau pour étayer sa soif. Alors il faut donc qu'il y ait un endroit, un cours d'eau suffisamment paisible, mais suffisamment large et disons important pour pouvoir nourrir les agneaux, mais pour pouvoir surtout permettre à l'herbe de pousser. Voilà donc les différentes tâches de ce berger. Et une fois donc cette visite, cette recherche accomplie, les mesures de sécurité, de protection achevées, eh bien, le berger peut retourner au pâturage précédent, prendre son troupeau avec lui et amener ce troupeau donc dans cette prairie qui remplit toutes les conditions requises. Et là, les brebis rentrent dans ce pâturage, peuvent brouter cette herbe grasse, herbe voisine donc d'un cours d'eau suffisant. Et puis, une fois qu'elles sont rassasiées, elles peuvent s'étendre, elles peuvent passer les heures les plus chaudes de la journée tranquillement, paisiblement, sur l'herbe ou peut-être à l'ombre d'un arbre. On peut dire ceci, chers amis, c'est que dès lors que ces brebis sont amenées dans ce genre de pâturage par un berger fidèle, un berger qui a rempli toute sa tâche, eh bien, elles ne manquent de rien. Elles peuvent se nourrir, elles peuvent se désaltérer, elles peuvent prendre paisiblement du repos, tout cela grâce à quoi ? Grâce à la fidélité, à la bienveillance, à l'attention et au travail, aux soins de ce berger, qui lui, de son côté, a pris le temps nécessaire à marcher, peut-être n'a pas beaucoup dormi, a subi la chaleur du soleil ou peut-être les froids de la nuit, pour permettre à ses brebis d'être paisiblement dans cet endroit. Le Seigneur Jésus, en Matthieu 12, verset 12, a déclaré ceci. Combien un homme ne vaut-il pas plus qu'une brebis ? Et il a affirmé cela aux pharisiens qui lui reprochaient un jour de sabbat d'avoir guéri un homme qui avait la main sèche. Et effectivement, chers frères et sœurs, si comme nous venons de le voir, un bon berger prend un si grand soin de son troupeau et un si grand soin de chacune de ses brebis, je dis bien de chacune, parce qu'il n'y en a pas une qui est plus importante que l'autre, eh bien, à combien plus forte raison une brebis du Seigneur peut-elle compter sur lui, sur ses bons soins, c'est-à-dire un chrétien, un enfant de Dieu, pour sa subsistance et pour tous les autres soins qu'il requiert. Ainsi donc, et nous sommes interpellés ce matin en cela, au lieu de nous inquiéter, comme nous savons souvent le faire, à propos du vêtement, à propos du travail, à propos de la nourriture, à propos de nos relations, de nos sentiments, à propos de notre santé, au lieu de nous inquiéter comme nous le faisons souvent, car nous sommes des hommes et des femmes faibles, fragiles, inquiets, eh bien, au lieu de nous inquiéter, nous devrions nous remettre avec confiance à la sollicitude du bon berger qui prend soin de nous. Car à l'image du bon berger qui était David, de celui dont il nous parle ici, qui prend soin de ses brebis, eh bien l'Éternel, notre Dieu, prend soin de nous. Qui que nous soyons, quelle que soit notre intelligence, notre formation, notre richesse, nos origines, notre travail, il prend soin de nous. Et lorsqu'il pourvoit à nos besoins, s'il nous donne même plus que le superflu, et je crois que nous pouvons dire vraiment avec honnêteté que notre Dieu nous donne plus que le superflu, ici, en Suisse, même si nous ne sommes certainement pas les plus fortunés de ce pays, mais nous sommes dans un, sinon le pays le plus riche, eh bien lorsqu'il nous donne le superflu, alors apprenons à ne pas imiter le monde qui reçoit tous ses bienfaits sans jamais reconnaître l'auteur de ses grâces, mais sachons au contraire, non seulement ne pas nous inquiéter, mais recevoir ce superflu avec reconnaissance. À l'image de David, sachons voir dans tous les privilèges dont nous jouissons les bienfaits de notre Seigneur, dans tous les privilèges dont nous jouissons. Quand on observe attentivement ce psaume 23 et ses premiers versets, ces deux, trois premiers versets, il peut sembler étrange que David commence à parler du repos du troupeau avant d'avoir mentionné les fatigues auxquelles ce troupeau a été soumis. Remarquez ceci, c'est qu'il commence par parler du repos alors même qu'il n'a pas parlé de ses fatigues. Il montre le berger qui s'emploie à restaurer les forces de ses brebis avant d'avoir dit comment ses forces ont été jusque-là employées. Pourquoi est-ce que David commence à parler du repos avant de parler du travail des brebis? Eh bien certainement que David veut nous faire comprendre une vérité importante. Cette vérité, dont nous devons nous rappeler ce matin, et en particulier dans cette journée, c'est que Dieu a comme principe de donner, avant de demander un quelconque service aux siens. Il a comme principe de nourrir l'âme des siens, avant de leur imposer un quelconque service. On peut dire, selon cet adage chrétien que vous connaissez tous, « Dieu donne ce qu'il ordonne ». Et nous devons donc nous souvenir de cette réalité ce matin, chers frères et sœurs. Le Seigneur ne vous demandera rien qui soit au-dessus de vos forces. Il ne vous demandera, il ne nous demandera aucun service, aucune épreuve même, que vous ne puissiez supporter. En toute chose, il sera là pour vous soutenir, ou vous secourir, ou plutôt, pour reprendre ce que je disais, il sera là pour vous préparer au service, voire même, parfois, à l'épreuve par laquelle il vous fera passer, selon ce principe qu'il pourvoit à tous vos besoins. Et je vous rappelle, à ce propos, le témoignage de l'apôtre Paul que nous avons lu il y a quelques semaines ou quelques mois en arrière, maintenant, dans l'Épître aux Philippiens, témoignage et même encouragement dans lequel donc Paul disait dans le dernier chapitre des Philippiens « Je puis tout par celui qui me fortifie ». Et un peu plus loin à ces mêmes Philippiens, il dit ceci « Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Christ Jésus ». Alors il est important de méditer une telle vérité. Dieu donne et Dieu ensuite demande. Et en particulier une telle vérité en ce dimanche. Pourquoi? Parce que je vous rappelle qu'aujourd'hui, premier jour de la semaine, eh bien nous commençons la semaine comment? Eh bien par un temps de repos, par un temps paisible, ensemble, en tant qu'Église, dans la présence de Dieu, c'est lui qui nous convie dans sa présence, nous sortons de la logique de travail légitime dans laquelle nous étions jusqu'à hier pour nous présenter devant Dieu, dans la présence de Dieu, comme dans de verts pâturages, auprès de cette eau paisible et suffisante qu'est la parole de Dieu, afin de retrouver des forces, afin de jouir de la présence de Dieu, de le regarder, de considérer ses voies, de regarder à lui afin de voir les choses de notre vie, quelles qu'elles soient, joyeuses ou difficiles, selon une autre perspective. Et de commencer, dans sa présence, paisiblement, cette semaine, et de la vivre à sa gloire. Nous avons vu donc la bonté du berger dans les pâturages, avec ses brebis. Nous allons voir maintenant la bonté du berger sur le sentier. C'est la deuxième partie du verset 3 et le verset 4. Et je lis. Il me conduit dans les sentiers de la justice, à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton, voilà mon réconfort. Alors, il est bien évident, pour les brebis, comme pour nous, que le repos, même si nous y aspirons, mais nous ne sommes pas tous corses d'origine, ne doit pas durer toujours. Et c'est ainsi que, après s'être reposé, donc le troupeau doit se remettre en marche. Après un temps passé dans ce pâturage, eh bien, et après avoir joui de cette herbe, de ce calme, de cette eau, eh bien, le troupeau donc doit se remettre en marche. Il faut qu'il regagne de temps en temps la bergerie, pas toutes les nuits. Il peut rester tranquillement pendant quelques nuits dans les pâturages, mais arrive un moment où il doit regagner donc la bergerie. Mais surtout, il faut que régulièrement, dans l'année et au changement de saison, il change d'endroit. Et il y a donc des migrations qui sont plus ou moins lointaines. Et c'est ainsi donc en hiver, et ça se passe aussi pour les bergers dans nos montagnes, il faut que le troupeau regagne la plaine dans laquelle il y a des températures un peu plus douces, un peu plus clémentes. Et puis, le printemps revenu, le troupeau va repartir. Il va gagner une petite hauteur au départ. Il va commencer son ascension, se rendre sur les plateaux que les pluies de l'hiver auront renouvelés en herbe et en fleurs. Et puis, au fur et à mesure que la chaleur va s'élever, eh bien, le troupeau va monter petit à petit pour se nourrir sur de nouveaux pâturages. Et c'est ce que nous découvrons dans ces pérégrinations, enfin ces pérégrinations nous sont rendues dans ces versets 3 et 4 par le psalmiste. Mais il faut savoir ceci, c'est que dans les plateaux et dans les plaines de Judée, il y a des sentiers qui sont trompeurs. Il y a des sentiers qui n'aboutissent à rien. Et pour vous qui avez déjà fait de la montagne, il arrive parfois que l'on prenne des sentiers qui n'aboutissent à rien, qui aboutissaient peut-être quelque part avant, mais qui ont été abandonnés. Ou alors, il peut y arriver qu'il y ait des sentiers qui aboutissent à des précipices et qui risquent donc d'entraîner dans la mort une brebis, deux, trois, voire un troupeau entier. Alors, ces précipices ou ces sentiers qui mènent à rien sont facilement reconnaissables au cours des voyages peut-être du printemps ou de l'automne, mais il n'en est pas de même l'été. Pourquoi ? Parce que le berger, en Judée, dans ces contrées, pour faire bouger son troupeau, le fait de nuit, pour éviter justement les lourdes chaleurs de la journée, et il veut éviter donc que ses brebis dépérissent sous le soleil. Le problème, c'est que si les brebis n'ont pas affaire à un berger soigneux, bienveillant, mais plutôt à un mercenaire, comme c'était d'ailleurs souvent le cas à l'époque, ce n'étaient pas des propriétaires de leurs troupeaux qui faisaient paître les troupeaux, ce qui n'était pas le cas pour David, puisque c'était les troupeaux de son père, mais les mercenaires ne s'occupaient pas réellement des troupeaux, et lorsqu'il y avait ces transhumances peut-être de nuit, une, deux, quelques brebis s'égaraient, tombaient dans des crevasses, étaient dévorées. Et en particulier la nuit, parce que la caractéristique première d'une brebis, c'est qu'elle s'égare facilement. Mais fort heureusement, le berger fidèle, et celui dont il est question ici dans ce chapitre 23, ou ce psaume 23, le berger fidèle, de nuit, suit son troupeau, surveille avec son chien, et garde, et permet ainsi que certaines brebis qui sont peut-être un peu plus curieuses que d'autres s'éloignent, ou que celles qui traînent rejoignent le troupeau. Et chers frères et sœurs, pour continuer d'être pratiques dans le cadre de ce psaume, eh bien, nous savons que, pas moins que les brebis dans le troupeau, nous avons besoin d'être dirigés. Nous en avons d'autant plus besoin qu'il arrive régulièrement dans nos vies qu'après un certain temps, un chemin, deux chemins s'ouvrent devant nous, que nous arrivions à une croisée de chemins et qu'il faut à ce moment-là prendre une décision à droite ou à gauche. Et nous ne savons pas exactement où mène l'un ou l'autre de ces chemins. Il peut arriver que l'un comme l'autre de ces chemins soit une bénédiction et que Dieu, dans sa bonté, nous donne, parce qu'il est généreux, eh bien, ceci ou cela, et que nous avons à faire un choix, mais que dans les deux cas, il y a une bénédiction. Comme il peut s'agir parfois de se trouver dans une voie sans issue dans un cas et pas dans l'autre. Alors il est précieux de savoir dans ces cas-là que notre Dieu est prêt à nous guider. Et comme l'écrit David, fort d'une expérience de nombreuses années, non seulement comme berger, mais surtout comme enfant de Dieu, il est important de savoir et de se souvenir comme lui, que le Seigneur le conduit fidèlement dans les sentiers de la justice. Cela signifie que les voies que Dieu fait prendre à ses enfants sont bonnes et justes. Mais parfois, à la croisée des chemins, il y a du temps à prendre. Une réflexion, un temps de prière et un temps de conseil à mettre en place. Et de ne pas foncer tête baissée vers ce qui paraît peut-être au départ beau, chatoyant, lumineux, intéressant, répondant peut-être à nos aspirations et qui n'est peut-être qu'une voie sans issue ou une voie qui va nous conduire à un précipice. Donc, prendre du temps dans ces cas-là, mais savoir que Dieu va nous conduire et nous montrer le chemin qu'il faut prendre. Et n'oublions pas qu'il y a dans la parole de Dieu des conseils très précieux. Dieu ne va pas nous montrer tous ses décrets, ne va pas nous révéler ses décrets cachés à notre égard, mais nous révèle déjà ce qu'il veut que nous fassions. Et il y a des voies qui sont déjà toutes tracées. Alors, pour le chrétien, il est important déjà de connaître ses commandements pour éviter certaines mésaventures qui pourraient devenir graves sur le long terme. Remarquez ceci, c'est que David précise que Dieu nous conduit ainsi à cause de son nom. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Fin du verset 3. Je vous rappelle, et pour vous qui étiez là vendredi soir, qui avez eu le courage en fin de semaine de venir pour la conférence sur le troisième commandement dans notre série de conférences sur l'éthique, que le nom d'une personne caractérise cette personne. Le nom de la personne dans la Bible est intimement lié à qui est cette personne. Ce n'est pas simplement une appellation, mais le nom d'une personne caractérise, révèle la nature même de la personne. Et nous l'avons dit à propos de Dieu, en particulier vendredi soir. Alors que veut dire David lorsqu'il dit « Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom ». David veut dire ceci. Dieu étant ce qu'il est, fidèle à l'égard de ses enfants, fidèle, bienveillant, miséricordieux à l'égard de ceux qui se sont confiés en Jésus-Christ pour leur salut. Dieu, étant fidèle à ce qu'il est, à son nom, ne refuse pas de nous montrer ce que nous devons faire, à condition que nous cessions de vouloir choisir, nous, notre voie et de vouloir la lui imposer, à l'instar d'Adam et Ève, qui ont en Genèse 3, décidé qu'ils allaient devenir une loi pour eux-mêmes. Ils allaient définir eux-mêmes ce qui était important pour eux et laisser Dieu de côté. Dieu ne refuse pas de montrer à ses enfants ce qu'il doit faire à condition qu'ils ne veuillent pas lui imposer leur volonté. Mais qu'ils soient prêts à marcher résolument dans les voies que Dieu a choisies pour eux. Et comme le dit le psalmiste au psaume 25, pour celui qui a décidé volontairement de suivre et de ne suivre uniquement que les voies du Seigneur, eh bien, il doit se faire l'écho de ce verset « Éternel, fais-moi connaître tes voies, enseigne-moi tes sentiers. » La question que l'on peut se poser, légitimement, et celle-ci est en particulier lorsqu'on voit la suite du texte et le verset 4, mais est-ce que tous les chemins par lesquels Dieu nous fera passer, est-ce que tous ces chemins, tous ces sentiers, toutes ces voies seront agréables et riantes? Est-ce que la voie du chrétien est forcément un chemin doux à nos pas, qui n'est pas rocailleux? Est-ce que ce sont toujours des chemins paisibles avec une herbe grasse ou un pâturage toujours verdoyant? Pas forcément, selon David, pas forcément. Puisqu'ensuite, David fait allusion à une vallée d'ombre mortelle que la brebis doit parfois traverser. Alors la question est celle-ci, mais quel est l'obscur défilé par lequel Dieu nous fait passer parfois? Peut-être pas nécessairement toujours la mort. La vallée de l'ombre de la mort dont il est question ici n'est pas nécessairement toujours, même si le mot mort y est et qu'il y a un rapport intime avec la mort, mais ce n'est pas toujours la mort. Mais ce sont ses soucis, ce sont ses différents périls, ce sont ses différentes épreuves, ce sont ses différentes maladies, ce sont ses différentes déceptions, par lesquels le Seigneur permet que nous passions, et qui suggère quand même de façon plus ou moins précise, et pour certaines plus que pour d'autres, cette mort qui atteint inéluctablement l'être humain et le chrétien en particulier. Il y a des sentiers, des épreuves, des douleurs, des déceptions par lesquelles le Seigneur permet que nous passions, qui nous rappellent au cours de notre vie quand même cette inéluctable vérité dont nous devons nous souvenir, fruit du péché ou salaire du péché, qu'est la mort. Et au sein de ces épreuves par lesquelles David est passé au cours de sa vie, que nous allons découvrir ces prochains mois, Eh bien, il est une chose extraordinaire, c'est que David a pu expérimenter qu'au sein de ces vallées sombres, au sein de ces épreuves et difficultés, eh bien, Dieu accorde à ses enfants une paix extraordinaire, incompréhensible. Incompréhensible quand on mesure parfois le poids de douleur et de souffrance qui atteint les chrétiens. Une paix. Et c'est d'ailleurs ce qui caractérise la différence entre le croyant et l'incroyant. C'est que dans un cas comme dans l'autre, les épreuves sont là. Ce n'est pas parce que nous sommes chrétiens que les épreuves ne nous sont pas données. Bien au contraire. Mais le chrétien passe par des temps d'épreuves différemment que le non-chrétien. Pourquoi ? Parce que, comme nous le lisons dans ce psaume 23, le berger qui veille sur les brebis est armé. Et notre Dieu est armé pour ses enfants. Le berger qui veille sur ses brebis a deux armes, ou deux outils à sa disposition pour les périodes difficiles par lesquelles passe parfois le troupeau. Il est armé d'un bâton, c'est-à-dire un gourdin qui est muni de clous, et il est armé d'une houlette, donc d'un grand bâton, d'accord, qu'il avait à sa disposition. Alors il a d'abord un bâton et il a cette houlette. Ce bâton, ce gourdin clouté, eh bien il est à sa ceinture, et le berger détache ce gourdin ou l'enlève pour pouvoir lutter peut-être contre les bêtes sauvages, pour pouvoir leur en asséner un grand coup derrière le museau, afin de leur dire qu'il vaut mieux qu'elles s'écartent et qu'elles laissent les brebis. Et puis la houlette sert à quoi ? Pour le berger, la houlette lui permet de marcher, lui permet d'ailleurs de lui éviter de tomber en montagne. J'ai découvert d'ailleurs cette technique lorsqu'on était dans les Pyrénées il y a quelques semaines en arrière. Quand il glisse sur une pente, il prend son bâton, il le tient à deux mains, et puis c'est comme s'il avait un troisième pied qui lui permettait de se diriger puis de s'arrêter, un peu comme un piolet, mais dans l'autre sens. Donc, il a à la fois ce gourdin clouté pour protéger, et il a cette houlette pour permettre aux brebis qui s'écartent, dans les moments difficiles, de rejoindre vite le troupeau et de rester en masse, et de ne pas s'éloigner, et de ne pas être déchiré, ou de ne pas se perdre au sein d'une crevasse. Ainsi donc, une arme a un rôle protecteur, et l'autre arme a un rôle de guide. Et mes amis, c'est la même chose pour nous de la part de Dieu. Notre Dieu nous protège, nous garde, et notre défenseur, il n'a pas un gourdin, mais il a une armée à sa disposition, et notre Dieu nous guide dans les moments de souffrance. C'est une réalité. Si David nous le dit dans ce psaume, c'est que c'est vrai. Et il le dit sous la forme de ce psaume dans lequel il parle du berger, pour nous aider, pour aider ses contemporains à comprendre cette vérité. Et je vous explique tous ces détails pour que vous la compreniez mieux, et que vous l'acquériez mieux, que nous l'acquérions tous. J'espère que je ne me trompe pas, et pardonnez-moi si c'est le cas. Regardez encore ceci par rapport à l'épreuve. Il est intéressant de noter que lorsqu'il fait référence donc à l'épreuve et à la souffrance, à la vallée de l'ombre de la mort, David, dans ce psaume, se rapproche de Dieu. Regardez bien. Jusque-là, verset 2, verset 3, il est question de Dieu à la troisième personne du singulier. Il me fait reposer, il me dirige, il restaure mon âme, il me conduit. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton, voilà mon réconfort. Remarquez ceci. Jusque-là, il a fait état de la fidélité, de la bienveillance du berger à l'égard de ses brebis, de façon générale. Mais dès que l'épreuve arrive, il se rapproche de Dieu. Et c'est pour ça qu'il emploie cette deuxième personne du singulier. Qu'est-ce que cela signifie ? Cela signifie que dans les temps d'épreuve, mes amis, nous devons, et d'ailleurs souvent nous le faisons, nous nous approchons de Dieu. Dans les temps d'épreuve, le Seigneur permet d'ailleurs ces temps d'épreuve pour que, loin de nous éloigner ou de nous tenir à distance de notre saint berger, eh bien nous nous en approchions, pour que notre intimité soit encore plus étroite avec lui. Et c'est dans ces moments-là, justement, que lorsque nous nous rapprochons de lui, il se rapproche de nous pour prendre soin de nous. Chers amis, cette deuxième section de ce psaume, cette deuxième partie, sur le sentier nous montre donc, comme la précédente, cette vérité initiale que nous découvrons dans cette première déclaration de ce psaume, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. L'Éternel est le berger de ses brebis, de son troupeau, de chacun de ses enfants. Il le conduit dans les pâturages, il le garde, il le protège et il guide son enfant aussi dans la vallée de l'ombre de la mort. Troisième et dernier point, à la bergerie, ce sont les versets 5 et 6. Tu dresses devant moi une table, écrit David, en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et je reviendrai dans la maison de l'Éternel pour la durée de mes jours. Le soir tombe. Nous sommes dans le pâturage. Voilà, plusieurs nuits maintenant que le troupeau est dans le pâturage, mais il faut ce soir que le troupeau rentre à la bergerie. Comment est caractérisée une bergerie? C'est quelque chose d'assez petit, souvent construit en pierre, en tout cas pour les bergeries dans nos montagnes. Il y a un enclos autour du bâtiment, autour de la bergerie. Le bâtiment lui-même, la petite maison, c'est pour le berger, l'enclos est pour les brebis. Mais au-dessus de cet enclos, eh bien, le berger a pris soin de mettre en place des branches épineuses entrelacées. Pourquoi? Eh bien, ces branches qu'il a mises au-dessus donc de cet enclos sont là pour éviter qu'un voleur escalade peut-être la clôture, mais surtout qu'une bête fauve franchisse d'un bond la clôture pour venir dévorer, déchirer, arracher, manger une des brebis. Alors, en arrivant à la bergerie, le berger est là, il est suivi par son troupeau, et puis il met une table, il pose une table, il n'a pas de tréteau, mais il pose peut-être un morceau de bois sur deux pierres, une planche qui va lui servir de table, et sur cette planche il va poser deux choses, une corne qui va être remplie d'huile d'olive, et puis une cruche qu'il va remplir à ras-bord d'eau. Et là, il va faire venir l'une après l'autre chacune de ses brebis, puis il va observer chacune de ses brebis. Les brebis passent devant lui, il y en a qui s'écartent, il les ramène un petit peu. Il les examine avec soin. Et puis, il en découvre une qui est un peu meurtrie au niveau du genou. Il prend de l'eau, il nettoie la plaie et il fait rentrer la brebis dans la bergerie, dans l'enclos. Il envoie une autre, peut-être, dont le côté a été un peu endolori. Il va la soigner, il va en prendre soin. Il envoie une qui est fatiguée, il va prendre son museau, il va lui mettre un peu d'huile dessus et il va la faire rentrer elle aussi. Et il va faire ça pour chacune des brebis. Il va regarder les pattes, il va regarder la corne des pattes. Tout ça, je l'ai appris dans les Pyrénées l'autre jour, hein, donc pas tout, hein, mais une grande partie, parce qu'on a de la famille dans laquelle il y a des bergers, donc c'était intéressant. Et s'il ne coupe pas les ongles des pattes, eh bien, elle risque des infections et elle risque de mourir d'infection. Chers frères et sœurs, certainement que David, lorsqu'il reprend cette image de cette table, de cette huile et de cette eau, David se souvient de ce qu'il a vécu lui-même, de blessures qu'il a subies, des poursuites de Saül dans les montagnes, lorsqu'il était acculé dans les rochers, donc près de la mer morte, au point de craindre pour sa vie. Il se rappelle de toutes ses souffrances, des haines dont il a été malheureusement la victime et bien d'autres choses encore. Et il se souvient que dans ces cas-là, Dieu a pris soin de lui, a pris soin des siens. Et comme l'eau et l'huile en permettent de soigner la brebis, eh bien Dieu a renouvelé, a reposé son serviteur et l'a oint d'huile, d'une huile de paix, d'une huile bienfaisante qu'il a renouvelée d'un point de vue physique, d'un point de vue psychique, d'un point de vue spirituel. Et c'est la raison pour laquelle il se souvient de cela, il se souvient de ses soins lui-même de berger à l'égard des brebis et qu'il écrit « Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires et tu prends soin de moi, tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. » Remarquez ceci encore, c'est que tout à l'heure, au début de ce psaume, alors que tout allait bien, le berger se bornait à une chose, c'est-à-dire à guider sa brebis vers la prairie où elle pouvait se nourrir elle-même, apaiser sa faim et apaiser sa soif. Mais maintenant qu'elle a été éprouvée, il va vers elle et il la soigne. Tout à l'heure, il l'a guidée. Ça, c'est notre vie de tous les jours. Dieu nous guide. Mais dans les moments d'épreuve, il fait plus que nous guider. Il vient et il nous soigne. Ainsi donc, si au début, cette brebis constatait qu'elle ne manquait pas du nécessaire, maintenant, elle peut déclarer qu'elle a tout avec en abondance et même en surabondance. Et voilà ce qui devrait caractériser notre vie chrétienne, chers frères et sœurs. Si nous savons voir, et j'ose espérer que nous le savons tous, je dis bien tous, quelles que soient nos circonstances, si nous savons voir, chers amis, Dieu à l'œuvre dans nos vies quand tout va bien, tout n'est jamais parfait, mais quand ça va, à combien plus forte raison devrions-nous voir aussi Dieu à l'œuvre par ses soins tendres et bienveillant lorsque ça ne va pas. C'est plus difficile, mais c'est néanmoins vrai. Et d'autant plus vrai qu'il est ce berger qui prend à ce moment-là bien soin de nous. Mais de la même façon que la brebis a une plaie qui lui fait mal, même quand elle a été soignée, parfois ça nous fait encore mal, mais Dieu est là et nous protège. Maintenant, voilà que le troupeau entier est blotti dans la bergerie, sous un ciel limpide, les étoiles scintillent, la journée est finie. Mais le psalmiste David termine le psaume ainsi. « Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. » La journée est finie, le troupeau est rangé, le berger peut se reposer un peu. Mais une chose est certaine, c'est que les journées qui suivent, pour le psalmiste, seront les mêmes que jusqu'à présent. Les journées qui suivent seront les mêmes que jusqu'à présent. On ne doit pas y voir une image un peu d'ennui, un côté répétitif. Les journées seront les mêmes. Mon berger ira dans un autre pâturage, le cherchera, le préparera, le protégera. Un pâturage dans lequel il y aura de l'eau, un pâturage qui m'apportera une nourriture suffisante. Les jours suivants, quand il y aura des épreuves, il sera avec moi, il me guidera et me protégera avec son gourdin et son bâton. Et puis quand je serai blessé, qu'on rentrera à la bergerie, il me soignera, il humectera mon museau avec de l'huile, il prendra encore plus soin de moi pour me réparer. Ces jours-là suivront. Et voilà, mes amis, ce que nous devons croire dans notre vie chrétienne. C'est que Dieu va continuer de prendre soin de nous. Dans les moments où ça ira, dans les moments où ça ira pas. Et dans les moments où nous serons dans l'épreuve, dans la tristesse, dans l'abattement, victimes de différentes difficultés, il sera d'autant plus près de nous. Et ce qui est extraordinaire, c'est de considérer les toutes dernières paroles du psalmiste. Et je reviendrai dans la maison de l'Éternel pour la durée de mes jours. Parce que la promesse qu'il y a, au-delà même de la vie d'aujourd'hui dans laquelle Dieu nous a accompagnés, nous accompagne et nous accompagnera, c'est de savoir, ça a une portée eschatologique, que à l'issue de notre parcours ici-bas, durant lequel Dieu nous accompagnera, eh bien, nous entrerons dans la maison de l'Éternel, cet endroit qu'il nous prépare et dans lequel, eh bien, pour la durée de nos jours, c'est-à-dire pour l'éternité, nous serons dans sa présence. L'objet de ces tendres soins encore, à ceci près, que les épreuves et les difficultés, la vallée de l'ombre de la mort n'existera plus. Mes amis, combien nous devrions à la lecture de ce psaume, écrit par David, qui fut un simple berger, obéissant à son père, qui prit soin d'un roi qui avait été abandonné, qui prit soin de son peuple, qui pécha, c'est vrai, mais à la lecture de ce psaume qui nous révèle la bonté de Dieu, combien nous devrions ce matin l'adorer pour son salut. Parce que si ses soins nous sont prodigués, c'est en vertu de l'œuvre de Jésus-Christ, pour la fidélité de notre Dieu. Alors je vous invite maintenant, nous n'allons pas chanter de cantique ce matin à l'issue de cette prédication, mais je vous invite maintenant à prendre du temps, à louer notre Dieu pour sa fidélité, à nous confier en lui, tout simplement.